Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons aborder des thèmes qui vont certainement vous intéresser. Comment s'est déroulé l'examen de fin d'études primaires en République démocratique du Congo? On en parle tout à l'heure avec M. Odia Moussungai, inspecteur général intérimaire au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et ensuite, on aura également M. Jacques Timbalanga, coordonnateur national de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous. Et dans cette première partie de l'émission, nous allons parler de mines. Que faire pour créer plus des zones d'exploitation artisanale? On en parle dans cette émission de la vie au quotidien avec M. Shadrach Moukad Mouai Endnaou. Il est président du cadre de concertation de la société civile du Lualaba et porte-parole de la délégation de la société civile du Lualaba. Et Maître Donna Kambola-Lenge sera également de la partie. Pour participer, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Encore une fois, bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Nous allons parler à présent de mines. Que faire pour créer plus des zones d'exploitation artisanale? Eh bien, le secteur de l'exploitation minière artisanale connaît des multiples problèmes qui datent depuis des décennies. Par exemple, le Lualaba compte plus de 200 000 exploitants artisanaux, selon la société civile locale. Cependant, bon nombre d'entre eux n'ont pas d'espace pour développer leurs activités. Conséquence, ils envahissent irrégulièrement les mines en activité, volent et détruisent les équipements, etc. Et des échauffourées entre les exploitants et les forces de l'ordre sont souvent enregistrées et parfois il y a mort d'homme. Alors que faire pour créer plus des zones d'exploitation artisanale de minerais dans le Lualaba et ailleurs? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Nous avons dans ce studio Maître Shadrach Moukad Mouai Endnaou. Il est président du cadre des concertations de la société civile du Lualaba. Maître Shadrach, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody.
Il n'est pas seul. Nous avons également Maître Donna Kambola Lenge, coordonnateur de l'initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains. Maître Donna, bonjour.
Bonjour Monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien.
Merci.
Et on aura également le directeur du CIMAP dans cette émission. Tout au long de cette émission, le CIMAP, c'est le service qui s'occupe, service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Alors la première question, Maître Shadrach, quels sont les problèmes que l'on rencontre beaucoup plus? Vous avez même tenu une conférence de presse dernièrement pour dénoncer tous les problèmes qu'il y a par rapport à l'exploitation artisanale des minerais au Lualaba. Alors dites-nous en bref, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quels sont les problèmes qui rongent ces secteurs?
Merci Monsieur Jody. Il faut retenir que cette conférence de presse que nous avons tenue ici à Kinshasa est la suite des activités que nous avons menées dans notre province. Et ces activités ont été motivées par rapport aux problèmes sur terrain. Vous savez, le Lualaba, c'est une province essentiellement minière, mais qui connaît autant de problèmes dans ce secteur, particulièrement le secteur de l'artisanat, où récemment, nous avons enregistré des échauffourées, des manifestations et aussi les sites privés, par exemple KCC, a connu des incursions de creuseurs artisanaux qui sont entrés et à leur passage, ils ont causé des casses, ils ont détruit, ils ont perturbé le fonctionnement de l'entreprise et pourtant c'est une entreprise d'un investisseur qui contribue largement au trésor public de notre pays et aussi qui contribue au développement communautaire des entités environnantes. Mais avec ces problèmes, nous en tant qu'acteurs de la société civile qui travaillons pour le suivi des activités de terrain et qui promouvons le développement de notre territoire, nous avions initié des consultations, notamment il fallait rencontrer les artisanaux. Nous avons eu une réunion avec des coopératives minières pour savoir quels sont les réels problèmes qui sont à la base de ces revendications. Parce que vous savez, quand il y a des cris, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et de cette rencontre avec des coopératives minières, il a été fait état des problèmes de manque de sites d'exploitation que nous appelons zones d'exploitation artisanale qui n'existent pas alors que la province héberge plus de 200 000 exploitants miniers artisanaux.
Regroupés dans 500 coopératives, plus de 500 coopératives
parce qu'en 2020, les statistiques font état de plus de 480 coopératives enregistrées, donc légalement créées dans notre pays. Mais voyez-vous...
Mais à l'époque de Martin Kabouéloulou, il avait créé des zones d'exploitation pour les artisanaux.
Oui, l'État congolais n'a cessé de nous parler des zones d'exploitation qui existent. Mais est-ce que ces zones qui existent sont-elles accessibles aux creuseurs? Vous savez, les zones que vous entendez, ce sont des gisements, ce sont des collines. Mais les creuseurs... L'exploitation minière artisanale, c'est celle qui se fait à l'aide d'un outil rudimentaire. C'est la bêche, c'est le marteau, c'est des instruments légers qui ne sont pas capables d'aller en profondeur. Mais la loi, quand vous prenez les dispositions par rapport à l'encadrement de ces exploitants miniers artisanaux, SAEMAP donne des instructions pour permettre qu'on ne connaisse plus des pertes en vie humaine, qu'on ne connaisse plus des effondrements des mines artisanales. Il faudrait qu'il y ait une profondeur bien déterminée. Au-delà, les creuseurs ne peuvent pas arriver. Mais lorsqu'il faut prendre la colline qu'on établit en zone d'exploitation artisanale pour atteindre l'île du produit, je pense qu'ils vont aller au-delà de la profondeur permise par la loi. C'est ce qui fait que ces zones-là ne sont pas accessibles. Et lorsque les creuseurs ou les zones qui sont accessibles, ce qui est vraiment aberrant, c'est de voir que l'État, le même... L'État congolais qui a créé cela en zone d'exploitation artisanale, ici on trouve tel que les cadastres miniers qui réattribuent ces mêmes zones à qui deviennent des périmètres, des permis d'exploitation pour des industriels, ce qui est vraiment une aberration. Comment l'État donne comme zone qui est inaccessible aux creuseurs, mais qu'on attribue encore aux industriels? Voilà, ce sont des problèmes réels que nous rencontrons dans les secteurs miniers artisanaux.
Maître Donald, je me souviens à l'époque du maire Tim qui avait un jour répondu à ses exploitants, allez exploiter chez vous, et les gens ont commencé à creuser dans les quartiers et c'était dangereux. Jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à creuser dans
malheureusement,
ces quartiers-là.
Malheureusement, oui, parce que il faut dire que quand vous parlez de l'époque de Madame le maire Tim, nous sommes dans les années 2013-2014. Et qu'en 2014, il s'est vécu un phénomène tel que dans les quartiers Kasulo, et dans la commune de Dilala, donc en plein centre-ville de la ville de Kolwezi, les gens ont commencé à faire de l'exploitation minière artisanale illégale et illicite, parce que les gens
dans des parcelles, j'ai vu parcelles, des trous
et
très dangereux.
Vous me posez la question de savoir si ça continue. Je vais vous dire que malheureusement, oui, ça continue. Et d'ailleurs, une fois de plus, c'est avec la complicité, je voudrais parler plutôt de la responsabilité des acteurs étatiques. Parce que Kasulo, par exemple, en 2018, il y a eu tout un processus de formalisation. Et ça signifie qu'on a déplacé les familles qui vivaient dans cette zone qu'on a qualifiée de zone rouge. Il y a eu un partenariat signé entre la province et une entreprise privée qui s'appelle CEDEM. Et en 2019, nous avons publié un rapport qui a évalué ces partenariats, mais qui a abouti à des conclusions telles que c'était une bonne initiative, mais mal encadré sur le terrain, parce que ça a créé beaucoup d'autres problèmes des droits de l'homme, même si ça avait permis de réduire tant soit peu la question de la présence des enfants dans les secteurs, sur la chaîne d'approvisionnement. Mais ça permet aussi à l'époque de sauver le prestige de notre cobalt. Cependant, depuis 2020, depuis le 21 et aujourd'hui, quand vous allez maintenant, vous verrez qu'il y a des dépôts qui sont en train d'être ouverts dans les zones résidentielles. Je parle ici de village Tchaboula, où en réalité il n'y a jamais eu d'exploitation minière artisanale, où en réalité il n'y a aucune zone d'exploitation minière artisanale, mais vous trouvez des dépôts d'achat de minerais tenus par des sujets chinois et libanais. Quand vous allez à Tchaboula, donc ça pullule malheureusement les dépôts dans les zones résidentielles qui sont des zones en principe incompatible avec l'exploitation minière, parce que à côté ce sont les familles qui vivent.
Donc il y a un désordre indescriptible dans ces secteurs-là.
Et ce désordre-là, pour moi, il ne suffit pas de parler seulement du désordre, il faut pointer du doigt l'inaction ou l'irresponsabilité de l'État congolais à travers ses services, et nous sommes en province. Je voudrais ici dire que le gouvernement provincial, il y a un manque de volonté à améliorer la situation, parce que vous savez, nous sommes dans une situation politiquement instable qui fait finalement qu'il y a des tireurs de ficelles de ces désordres. Parce que quand on parle du désordre, ça signifie qu'il y a des loups qui sont en train de tirer les bénéfices.
Mais il semble qu'il y a de plus en plus, ce secteur est très politisé.
Très politisé, parce que autant de membres du bureau de l'Assemblée provinciale, autant de membres du gouvernement provincial, quand je parle du bureau, vous voyez que ce sont les grands acteurs politiques. Quand je parle
entre guillemets, la famille présidentielle, on dit qu'il y a aussi...
Donc, vous avez comme acteur politique visible les phénomènes famille présidentielle, et ce qui est étonnant, c'est souvent les Chinois, les Libanais qui n'ont rien à voir avec la parenté avec les chefs de l'État, mais qui sont parrainés par certains proches de la famille présidentielle. Vous avez des officiers militaires et policiers, vous avez l'influence des agents de sécurité. Quand vous allez dans une cité comme Kakanda, vous verrez qu'il y a même un dédoublement des services de l'État dans les milieux.
Pour percevoir plus de taxes.
Au-delà de la perception, les gens s'adonnent carrément à la commercialisation de ces minéraux. Mais vous avez aussi tous les enfants, les proches, si pas de membres du gouvernement provincial, mais de l'Assemblée provinciale, qui sont finalement des acteurs dans l'exploitation minière artisanale. Il suffit de prendre la liste des coopératives. Vous avez dit que nous aurons le directeur de SAMAP ici. Mais quand vous prenez la liste des coopératives qui sont à Colouzi, en tout cas les coopératives les plus visibles et les plus présentes dans les carrières, ce sont des coopératives qui sont dirigées ou à la tête, si ce n'est pas l'enfant, c'est les cousins de tel acteur politique, que ce soit au niveau provincial. Donc, ces désordres-là fait que, au lieu que nous avancions sur le terrain d'assainissement de la chaîne d'approvisionnement du cobalt et du cuivre, nous sommes en train de reculer par rapport aux efforts qui ont été lancés dans les années 2018-2019. Et donc, pour revenir à votre question, oui, il y a un désordre dans le secteur minier artisanal.
Et ça date pas d'aujourd'hui.
Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais moi, je dénonce l'ampleur que ça prend, parce que en 2017, au niveau provincial, nous parlons de ce que nous faisons comme travail. Je vous dis, je suis porteur d'un rapport qui a évolué la réforme en 2019. Il y a eu une volonté au niveau provincial de vouloir assainir la chaîne d'approvisionnement. Il y a eu même plusieurs initiatives au niveau international. Il y a beaucoup de projets dans lesquels vous avez entendu parler du projet Cobalt de développement. Il y a plusieurs projets financés avec des gros financements pour assainir la chaîne d'approvisionnement. Et assainir signifie réduire la présence de la femme et de l'enfant, plutôt des enfants et des femmes enceintes sur la chaîne d'approvisionnement, mais c'est aussi rétablir l'artisanat, l'exploitant artisanal dans de bonnes conditions de travail, pourvu qu'on crée une classe moyenne. Mais malheureusement, par rapport à cet objectif, on crée une classe moyenne étrangère plutôt qu'une classe moyenne composée de Congolais. Et l'exploitant minier artisanal, abusivement appelé Crézer, reste le plus pauvre sur la chaîne. Et donc, et nous, comme société civile, nous sommes préoccupés par ça, parce que c'est une contradiction. C'est une contradiction.
Maître Chadrak, alors quelles sont les solutions que vous proposez? Je sais que vous êtes en train de faire un plaidoyer là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre de l'ordre dans ces secteurs?
Pour mettre de l'ordre dans ce secteur, M. Diodi, la première des choses, je pense que mon confrère venait de les mentionner, c'est l'inattention d'abord
du gouvernement
central. Autant des fois la société civile a crié haut et fort, dénoncé ces désordres, dénoncé l'influence politique dans le secteur artisanal, mais l'État congolais semble être différent. C'est là où nous trouvons que tout ce qui se passe au Lualaba aujourd'hui, les désordres, cette cacophonie, le flou qui plane dans les secteurs minier artisanal, pour nous, prouve à suffisance que les bénéficiaires, les tireurs de ficelles se trouvent ici à Kinshasa.
C'est parrainé par des généraux, par des
nous avons décidé de venir faire ce plaidoyer à partir de Kinshasa pour que ces gens nous écoutent. Il est vrai, il faut qu'il y ait une volonté politique réelle. Cette volonté sous-entend que l'État prenne des dispositions, parce que vous voyez dans notre communication, dans notre conférence de presse, nous avons relevé les nombres. Nous avons plus de 200 000 jeunes désœuvrés, mais qui trouvent pour occupation l'exploitation minière artisanale. Les femmes que nous avons rencontrées là-bas se disent, mais lorsque ces jeunes, autant comptés par centaines de milliers, n'ont pas d'occupation, parce qu'ils vivent au quotidien grâce aux bénéfices qu'ils tirent de l'exploitation minière artisanale. Et lorsque ces jours-là, pendant une semaine, deux jours, il ne l'a pas fait, qu'est-ce qu'il va faire? Mais c'est détruire une maison, c'est aller voler les biens d'autrui. Donc, c'est une menace, c'est une insécurité sociale. Donc, l'État devra faire de manière que, ce secteur étant un secteur légalisé, il faut y mettre une politique réelle, une politique d'encadrement, d'accompagnement. On a des zones, on a des espaces qu'on a estimé que ce sont des zones destinées à cette exploitation artisanale. Mais il faut y mettre des moyens. Ils ont des collines, mais avec des outils rudimentaires, ils ne savent pas y accéder. Pourquoi l'État ne pas prendre des millions d'argent, comme c'est un secteur qui encadre ou qui occupe autant de désœuvrés, si on y met des millions et qu'on fasse la découverte de ces zones qui permet que ces jeunes ont d'espace accessible, et demain, on verra que l'argent va circuler. La politique de penser verbalement seulement, qui devient comme slogan, la création de la classe moyenne. Mais dans les secteurs, ce sont des politiques qui créent des coopératives à Kinshasa. Et pourtant, du point de vue partant de l'idée du code minier, les coopératives devraient être une association des créateurs. Mais ce n'est pas le cas. Pratiquement, ce n'est pas ce qui s'est fait. Ce sont des officiers militaires ce sont des hommes politiques. Je vous dis, monsieur Jody, nous avons la liste, comme mon confrère vous l'a dit. Nous pensons que prochainement, si les choses ne changent pas, nous vous dirons ici sur votre plateau, nous allons citer nommément les personnes politiques et militaires qui détiennent des coopératives, contrairement à ce que la loi veut. Nous allons les citer parce que les gens ne veulent pas changer. Ils sont fortement riches, mais ils occupent encore le secteur minier qui devait promouvoir la classe moyenne. Donc, il l'a dit.
Mais pourquoi ils ne font pas de l'exploitation industrielle et laisser les artisanaux évoluer?
Non, c'est tout simplement parce que les gens trichent.
Aujourd'hui, l'exploitation minière artisanale, pendant que les autres deviennent de plus en plus riches, et les creusers deviennent de plus en plus pauvres. Et c'est vraiment injuste. Donc la solution, il faut qu'on mette des moyens, qu'on puisse vraiment faciliter la tâche, qu'on ait des zones accessibles et qu'on arrête le fait, lorsqu'on dit que ce gisement est rentable, qu'on l'attribue maintenant à un exploitant minier industriel. Parce qu'on est beaucoup attiré par la cupidité. On doit penser aussi à la classe, au social des Congolais. On doit penser aussi à ce pauvre Congolais qui est sur son sol, sur le sol de ses ancêtres, mais qui voit les Chinois qui viennent. Pauvre, en babouche, mais peu de temps, il est millionnaire. J'ai eu à échanger avec certains coopérateurs, c'est-à-dire les responsables des coopératives, qui disent, mais ils nous disent, ici parmi nous qui sommes négociants et qui demandaient seulement à quelqu'un de vous donner 50 000 dollars, il n'en a pas. Mais le Chinois qui est venu moins de 10 000 dollars, peu de temps, il a des millions, parce qu'il est parrainé par des hommes politiques, par des officiers militaires, et avec ce parrainage, ils les mettent là où ça paye plus vite. Et ce sont les étrangers et les hommes politiques
qui s'enrichissent au détriment du peuple.
Mais le peuple, allez au loin là-bas. Est-ce qu'il y a l'argent? L'argent ne circule pas. Mais voyez la production qu'on enregistre chaque jour. Où va l'argent?
Tous les camions qui sortent avec les
capitaux
produits.
Restent chez les Chinois, chez les Indiens, chez les Libanais. C'est vraiment, nous pensons qu'il faut une politique sincère, une volonté politique qui doit penser au social du peuple congolais.
Bien, on va accueillir les auditeurs. En nous parlant des mines, que faire pour créer plus les zones d'exploitation artisanale? Vous voulez participer à cette émission? Appelez au 081 890 63 94.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Bien, que faire pour créer plus des zones d'exploitation artisanale, des zones minières d'exploitation artisanale? On en parle aujourd'hui avec nos invités. On va accueillir les auditeurs. Orsène est à Lubumbashi. Christian nous appelle de Bounia et Platini de Mbandaka. Orsène, bonjour. Et quelle est votre question? Il n'est plus là. Christian de Bounia, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, l'auditeur de la radio Kati. Bonjour, l'auditeur.
Quelle est votre question, Christian? Quelle est votre question?
Oui, je voulais parler sur notre pays, notre richesse de notre pays. Je veux que nos gouvernements congolais puissent sensibiliser d'abord des gens qui sont d'abord intellectuels pour produire ici des minéraux dans notre pays, pour construire dans notre pays. Il y a d'autres pays comme les Chinois, les Américains et d'autres quoi que ce soit, les Japonais. Qui veulent toujours prendre leur recherche et pas avec l'air pour leur pays, pour construire leur pays, et ça, que notre pays est toujours moins développé dans la République démocratique du Congo. Le gouvernement doit d'abord mettre des usines de missiles et des usines de véhicules, de la moto ici à l'air. Nous, les Congolais, commençons à produire nos recherches ici.
Bien, d'accord. On a compris donc qu'on puisse transformer nos minéraux sur place. Voilà. Platini, vous êtes en Mbandaka, bonjour.
Je dis bonjour, je salue le.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'exploitation artisanale des minéraux et surtout à la création des zones d'exploitation artisanale?
Voilà, merci Jody pour m'avoir accordé la parole. Je pense que comme j'ai bien suivi l'invité, et ce que moi je peux ajouter dans ce débat, c'est une question de la sensibilisation des hommes capables, des hommes intellectuels, des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà ce que je peux ajouter. Alors aujourd'hui, je pense que l'exploitation, oui, c'est bien. Et nous-mêmes, le peuple congolais, on peut quand même exploiter. Mais pour exploiter, d'abord, on doit commencer par sensibiliser à qui du droit, donc la personne concernée, qui peut se faire signer ce travail-là. Alors, la question que moi, je vais poser à l'invité, dès qu'on va transformer, oui, c'est bien, maintenant, qui sont concernés? Le critère, le parti concerné à RD Congo, c'est laquelle? Voilà, c'est ce que je voudrais.
Platini, d'abord, les exploitants artisanaux n'ont pas d'espace pour exploiter. Ce sont les Chinois et les autres qui s'accaparent de tout en complicité avec les services de l'État. Et vous avez une question particulière par rapport à ça?
Oui. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de couper? La question que je peux poser, dès que c'est les Chinois qui exploitent, est-ce qu'il n'y a pas moyen de couper les contrats qu'on a signés depuis longtemps avec les Chinois et d'autres là, qu'on laisse les places eux-mêmes aux Congolais? Voilà ce que je voudrais avoir l'idée autour de ça.
Voilà, y a-t-il moyen de revisiter les contrats? D'accord, merci.
Oui, il y a moyen de réviser les contrats avec les Chinois, etc. Tout ça. Je ne sais pas si ça peut aussi être possible.
D'accord.
Voilà, je voudrais avoir l'idée autour de ça.
Merci, Maître Donat.
En fait, l'une des solutions pour créer les EA aujourd'hui, les plaidoyers de la société civile, c'est que qu'on demande aux industries minières de céder une portion de leurs espaces aux artisanaux qui sont les Congolais. Et ça, il faut un plaidoyer au niveau national. C'est comme ça que Chadrak parle de la volonté politique. Parce qu'on a créé une affaire d'une trentaine de zones d'exploitation minière artisanale qui sont pas rentables et fiables, non accessibles. On n'a pas d'argent.
Une trentaine des zones.
Une trentaine. Et il n'y a pas, jusqu'à présent, les creuseurs ne savent pas accéder à ces zones parce que n'ayant pas assez de moyens pour rendre ces zones fiables et accessibles. Et ce débat, ça fait 3 ans que l'on est tenté de le. Voilà, aujourd'hui, nous pensons qu'en vertu de l'article 30 du Code minier, il est possible pour l'État congolais d'engager un plaidoyer auprès des entreprises minières industrielles, de céder. Vous avez une entreprise comme TFM, vous avez une entreprise comme KCC, Sicomine et Kamowa, qui ont des concessions en termes des espaces interminables. Il y a des parties qui les entreprises n'exploitent même pas. Donc il est possible, au regard de l'article 30 du Code minier, que l'État congolais, parce que le président Félix, quand il est venu à Kolwezi, il a dit au Lualabé, nous allons changer les choses. Notre richesse doit profiter aux Congolais. Et comment on veut faire profiter les richesses congolaises si on ne fait pas un plaidoyer qui amène les industries minières à céder?
Mais comment, pourquoi demander à ces industries de céder? Parce que c'est l'État congolais qui les a attribuées, ces carrés-là.
Il est important, si on veut vraiment résoudre les problèmes, d'engager un plaidoyer et ce n'est pas impossible. Il y a des entreprises minières qui sont à mesure de céder. Seulement,
un instant, on va accueillir Monsieur Kapongo, Jean-Paul Kapongo, qui est le directeur général du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, SAEMAP. Monsieur Kapongo, bonjour.
Bonjour.
Nous parlons aujourd'hui de la situation de l'exploitation artisanale dans le Lualaba des minerais. Aujourd'hui, les exploitants artisanaux n'ont pas assez d'espace pour exploiter et des moyens. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette situation, à tous ces problèmes qui datent de plusieurs décennies?
Merci beaucoup pour la question. Il faut d'abord essayer un peu de voir la mission qui nous a été consignée en tant que SAEMAP service qui encadre les exploitants artisanaux au Congo. Donc, ici, il y a question de savoir notre mission au niveau de, comment on appelle, du décret qui a créé le SAEMAP depuis 2017. Nous avons la mission d'abord d'identifier le site, parce que c'est comme notre confrère qui venait de le dire, le SAEMAP est en train de se retrouver avec beaucoup de difficultés, d'autant plus que nous n'avons pas de zone d'exploitation artisanale qui pouvait servir aux Congolais qui sont là, que le président de la République, lors de son discours, a précisé de faire de ces Congolais, et bien entendu, des millionnaires, parce que c'est une classe moyenne que nous devons tenir compte et à écouter les cris. Alors, les SAEMAP que je dirige, nous nous retrouvons en difficulté. Pourquoi? Parce que tous nos sites ont été déjà vendus. Partout où les creuseurs devaient faire le travail, ce sont les permis d'exploitation des tierces, ce sont les permis de recherche des tierces personnes. Vous allez trouver une personne, il a plus ou moins 50, 30, 40 carrés miniers non exploités. Et il est détenteur d'un permis d'exploitation. Il peut être en Europe, il peut être en Asie, il peut être en Amérique.
Des carrés miniers non exploités.
Non exploités. Je connais beaucoup. Je suis pour le moment à Lualaba, où il y a cette grande difficulté. Quand les creuseurs se retrouvent dans un chantier ou dans un site, les creuseurs, dans leur tête, ils ne savent pas que ce site peut appartenir à une tierce personne qui vit soit à Kinshasa, en Europe ou ailleurs. Et les creuseurs, leur travail...
Allô? Allô? Il n'est plus en ligne, il y a sûrement un souci au niveau de la liaison téléphonique. Monsieur Jean-Paul, vous êtes là? Voilà, Tati Mapoukou va le rappeler. Maître Chadrak, vous avez suivi un commentaire par rapport à ce qu'il vient de dire.
Pas tellement de commentaires, mais vous comprenez que le plaidoyer de la société civile a son fondement.
C'est un personne qui détient 30 à 40 carrés miniers non exploités.
C'est le responsable de SAEMAP, qui a un service d'accompagnement ou d'encadrement des exploitants miniers artisanaux, mais qui estime que nous avons des multitudes de creuseurs, mais où les placer? L'État crée un service, l'État légalise un secteur, mais l'État ne facilite pas les moyens d'exploitation de ces secteurs. C'est ce que nous avons dit. Est-ce qu'on a une volonté réelle politique?
Donc c'est le même État qui joue double jeu.
Non,
mais
c'est
non,
parce
ce sont
que
les acteurs politiques,
ceux qui agissent au nom de l'État, trouvent une opportunité pour s'enrichir au détriment de l'État. C'est dans les secteurs minier artisanal où il y a la fraude minière exagérée. C'est là où ils ont installé vraiment une tracasserie fiscale. Mais qui profite aux individus? Qui profite aux individus? Dans les secteurs minier industriels, tout est canalisé, c'est bien tracé. Mais dans ce secteur-là, n'est-ce pas là? Voilà pourquoi nos sociétés civiles, une fois nous disons, voilà qui fait qu'ils ne veulent pas que l'entreprise générale du cobalt TGC puisse fonctionner, parce que cette entreprise, dans ses missions, quand vous lisez, c'est la formalisation. Permettre à l'État de maîtriser le secteur, mais ils disent, mais quand l'État maîtrise, mais qu'est-ce que nous devenons? Pourquoi nous avons des personnes fortes dans ce pays pour
mais
avoir
pas des institutions?
Il faut changer la donne.
Monsieur Kapongo est de nouveau en ligne. Vous êtes là, monsieur Jean-Paul?
Je suis là.
Oui, allez-y. Donc, vous étiez en train de dire qu'il y a des individus, vous avez trouvé cette situation, qui ont 30, 40 carrés miniers non exploités, ils sont en Europe, et puis voilà.
Exactement. Je peux vous donner un exemple pour ne pas citer. J'ai vu un cas à Lubumbashi, où moi-même, je suis allé jusque sur le terrain, j'ai trouvé plus de 50 000, 70 000 crésaires. Vous comprenez ? Qui sont dans un site d'un individu que je ne peux pas citer, où moi-même j'ai trouvé que les crésaires étaient en plein travail. Étaient en plein travail et vous trouverez là-bas, il n'y a pas de route, il n'y a pas un centre de santé, il n'y a pas même pas une petite maisonnette, une petite TEC, je ne sais pas moi,
qui prouve. Donc ils travaillent dans des conditions inhumaines.
Je vous dis, et je suis arrivé, moi-même, avec mon équipe, nous avions du mal à accéder d'abord. On a quitté Lubumbashi à 7h, on est arrivé là-bas à 15h, il n'y avait pas de route. Mais quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que non, vraiment, il y avait un monde fou de crésaires. Avec une telle population, vous allez mettre ces gens-là où? J'ai fait les investigations, je suis revenu voir, Excellence, Monsieur le gouverneur de province, et j'ai tenu, Monsieur Kaboul, j'ai tenu une réunion avec lui, j'ai convoqué les services. J'ai parlé et je voulais savoir les détenteurs de cette concession. Et je l'ai eu. Je l'ai appelé à Kinshasa. J'ai trouvé qu'il avait au moins 157 carrés miniers.
Lui-même.
Et j'ai négocié avec le monsieur. Je lui ai dit, écoutez, au nom de la paix, au nom de la sociabilité congolaise, cette population, on ne peut pas laisser cette population-là comme ça et les chasser comme des individus alors qu'ils sont dans leur pays. J'ai écouté le chef local, ils m'ont expliqué comment les crésaires ont accédé dans ce site-là. Et donc, j'ai parlé avec le monsieur, je lui ai dit en tant que directeur général, bon, je vous demande si vous pouvez
céder une partie,
de nous céder même minimum, même 20 carrés. Comme ça, avec ce 20 carrés, nous allons mettre ça à la disposition des artisanaux et nous allons encadrer les minerais, les matières, les gisements qui vont sortir. Nous pouvons faire un protocole d'accord entre les SAIMAP et il a refusé jusqu'à aujourd'hui de s'en pour parler. Voilà la difficulté que nous retrouvons.
Mais comment se fait-il qu'il y ait des individus qui sont plus forts que l'État congolais?
Non, le problème c'est parce que les codes miniers ici nous compliquent à un moment donné. Nous devons voir cette chose si claire. Les codes miniers, à un moment donné, c'est comme si ça ne profite pas aux Congolais. Parce qu'il y a l'article 30, alinéa 2, du code minier qui précise que ça a une mission. On peut prendre une coopérative, on peut installer dans un permis d'exploitation. Et on peut faciliter le créateur pour travailler comme ça. C'est cet article qui nous permet au moins de travailler jusqu'à preuve de contraire. Oui, la difficulté que nous remet. Beaucoup de permis d'exploitation n'acceptent, beaucoup de détenteurs de permis d'exploitation n'acceptent pas ça. Ils n'acceptent pas.
Bien. C'est pourquoi. D'accord. Un instant, monsieur le DG, le temps d'accueillir quelques auditeurs. Orsène de Lubumbashi, et puis nous avons Justin Dounia qui nous appelle du Nord Kivu. Orsène, bonjour.
C'est Jody et bonjour, Richard.
On vous écoute, Orsène.
Merci beaucoup, monsieur Jody, pour. Et à ce sujet du jour. J'ai entendu le maître qui a évoqué les cas des KCC. Les caseurs sont partis là faire du sabotage et autres. Mais il faut se demander, mais c'est aujourd'hui, les gens là qui n'ont pas de travail, comment ils vont vivre?
Oui.
Et que la Gécamine est en train de vendre toutes les collines. La Gécamine est en train de vendre toutes les collines. Alors les gens là vont se réveiller comment? Moi je pense que l'État congolais, ensemble avec les ministères des mines, peuvent être ensemble, rester, parler sur ça, s'il y a possibilité de créer quelques collines pour ces gens-là, faire la découverture, passer à l'exposition, s'il y a possibilité, ça va peuvent aussi commencer à célébrer. Moi ça me fait mal quand je vois même deux femmes dans des carrières, je vois même des enfants, des petits-enfants de 16 ans, 3 ans, 4 ans. Au lieu que ces enfants-là soient à l'école, ces enfants-là qui sont dans des carrières en train de se débrouiller, les gens-là qui marchent du travail. Quand il y a les expatriés qui viennent se passer chez nous ici, il n'y a que des recommandations. On ne voit pas même les résidents de cette ville ou bien de la province à question. Il y a des recommandations, les gouverneurs qui recommandent, les maires de la ville qui recommandent, les territoires qui recommandent. Mais comment voulez-vous que les gens-là arrête la Saint-Kenyon.
Merci beaucoup. Merci. D'accord. Merci Orsène. On va donner la parole à Justin Douni qui nous appelle des Moubi, au Nord Kivu. Bonjour.
Bonjour, je suis Daniel Kachama. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capille ici à Moubi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Justin?
Merci beaucoup. J'avais juste deux petites préoccupations à adresser à notre invité. Ma première intérêt, c'est que je suis à Walikane, où le territoire est beaucoup plus réputé d'exploitation de minerais. Je voudrais juste savoir qui sont censés accompagner les artisanaux, le plaisir des artisanaux dans leurs activités. Est-ce que lorsque les artisanaux travaillent dans des sites validés ou pas? Bon, je parle des sites validés parce que là, c'est d'une manière légale. Qui sont les services qui sont censés accompagner ce genre de travailleurs pendant l'extraction des matières premières? La deuxième question, quelles sont les conditions qui donnent donc l'accessibilité aux artisanaux dans des sites validés? Il y a des cas, nous vivons des cas où les artisanaux sont dans un site, on va donner des services étatiques qui viennent et disent aux artisanaux de vider les sites parce qu'ils ne sont pas habilités du travailler. Alors je ne sais pas quelles sont les solutions et les problèmes qui font à ce que les artisanaux normalement ne soient pas admissibles dans ces sites.
D'accord. Oui, d'ailleurs, souvent, il y a des échauffourées entre les artisanaux et les forces de l'ordre. Et parfois, il y a des morts d'hommes à cause de tous ces problèmes-là. Merci d'avoir appelé Aziza. Vous êtes à Kamina. Aziza, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel. Bonjour aussi à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce thème du jour?
Oui, par rapport à la thématique du jour, moi, je voudrais féliciter tout d'abord les invités. En particulier, Maître Donat et Justali en passant.
Je vous en prie.
Je crois que je n'ai pas assez de questions à poser parce que les invités eux-mêmes font d'abord la défense de la population. Moi, ce que je voudrais, c'est dire qu'il faut interpeller beaucoup plus, insister au gouvernement. C'est au niveau de là qu'il y a des orchestres où on a de la mauvaise foi par rapport à la gestion des entreprises en RDC. Et c'est le gouvernement qui devrait donner des limites à ceux qui viennent pour qu'ils ne dépassent pas leurs limites et les instructions qu'on leur donne. Voilà ceux qui font du mal. Quand on leur donne l'autorisation, ils vont au-delà même des limites des règlements qu'ils les ont donnés.
Bien, merci. Voilà. Merci Aziza de Kamina. Maître Donat.
Bon, je crois que les commentaires que j'ai faits, surtout par rapport à l'intervention du DG de SAMAP, c'est que c'est étonnant. C'est étonnant que ceux qui gèrent ces pays se plaignent de la même façon que nous, la population. Et parce que parmi les solutions, effectivement, c'est que l'État doit s'imposer. Mais je comprends que le défi pour l'État à s'imposer, c'est que ceux qui parlent au nom de l'État sont dans un conflit d'intérêts. C'est eux qui entretiennent en fait les désordres.
Donc le même État joue un double jeu.
Quand les DG parlent de ceux qui détiennent les permis, mais qui est le parrain de tous les acteurs qu'on voit par exemple au Lualaba? Lui maîtrise bien la liste par exemple des acteurs, notamment les coopératives. Il suffit de faire un petit rapprochement entre les coopératives et certains acteurs politiques. Vous allez découvrir que ce sont les enfants de membres du gouvernement qui sont aujourd'hui des grands acteurs miniers. Chaque fois qu'on nomme quelqu'un dans un poste, ses enfants deviennent des exploitants et des négociants. Du coup, c'est un désordre. Ces acteurs qui viennent pour tricher, ces acteurs qui viennent pour s'enrichir, ne veulent pas travailler dans l'ordre. Je vous ai dit qu'au Lualaba, depuis 2017, il y a eu un processus de formalisation du secteur. Mais aujourd'hui, il y a des dépôts partout. Et que dit le DG de SAMAP par rapport aux dépôts de comptoirs qui seraient tous dans les sites où il n'y a pas de zone d'exploitation minière artisanale? Et je vous cite les sites. Quand vous allez à Kolwezi, vous êtes à la cité Kakanda. Quand vous êtes plutôt, oui, vous êtes, je crois, à Kakanda, vous êtes à Tchaboula, partout là où sont les zones d'exploitation artisanale. Je termine en disant, quand les DG, finalement, les CMAP encadrent quel exploitant artisanal sans site, sans zone d'exploitation, parce que pour qu'on parle des exploitants artisanaux, il faut qu'il y ait des zones d'exploitation artisanale.
Bien sûr.
Donc ces services-là, conscient des problèmes du secteur, devrait permettre au chef de l'État, au Premier ministre, d'engager des vraies réformes. Et les vraies réformes, le chef de l'État, on les prend au mot. Quand il est venu à Colosie, il a promis d'inverser la chose. Mais j'ai l'impression que ce soit ce régime, que ce soit le régime passé, malheureusement, les gens vont vers l'enrichissement illicite.
Il y a une cupidité extraordinaire.
Nous avons le retour avec force du phénomène famille présidentielle dans l'exploitation minière artisanale. Et quand on parle de la famille présidentielle, c'est y compris la famille des gouverneurs, des députés. Parce que quand vous allez à Kissing, vous allez vous rendre compte que la coopérative qui est à Kissing, par exemple, beaucoup de gens ne le savent pas. Il suffit de regarder qui sont les dirigeants de cette coopérative. Vous allez tout de suite vous rendre compte que c'est une affaire des politiciens. Quand vous êtes à Colosie, les enfants des gouvernants sont visibles dans l'exploitation. Oui. Et chez nous, par exemple, on nous parle de l'augmentation des recettes de l'exploitation minière artisanale qui n'ont aucune retombée dans le social du Congolais.
D'accord.
En rapport avec les conditions de travail des artisanaux, c'est encore grave. Je vous ai dit que sur la chaîne d'approvisionnement du cobalt, finalement, l'exploitant reste pauvre. D'où, si on veut créer des zones d'exploitation artisanale, en attendant qu'on ait les moyens, l'État doit s'imposer vis-à-vis...
Demander à tous ces exploitants de céder.
De céder
des au moins combien de parties
vous savez, si on a seulement 10 zones d'exploitation artisanale au Lualaba, tant soit peu, on peut résoudre déjà les problèmes. Et pour ça, effectivement, on n'a pas le temps d'aller dans les détails, mais la société civile proposerait un critérium sur quelle est la coopérative à laquelle on doit donner les arts. Parce qu'on risque de donner aux coopératives fictives créé par les politiciens, ils vont se faire de l'argent sans impact réel dans la vie des artisans.
Maître Chadrac, parlez-nous par rapport à cette affaire de ces sujets chinois qui n'acceptent pas les résultats d'expertise du spectromètre portable à rayon X des dispersions d'énergie, Metorex. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
C'est étonnant comme Maître Donat a utilisé le terme. C'est étonnant. Monsieur Jody. Imaginez cela se passe au grand jour devant l'œil impuissant de l'État congolais. Ça est mappé, un service technique de l'État qui dit pour résoudre la question du tricage, de la minorisation, des balances, tricage des balances du Metorex, il faut que nous-mêmes nous ayons cet appareil pour aider nos compatriotes congolais à se retrouver. Parce que selon les rapports sur le terrain de Madame la ministre était à Colosie l'année passée. Vous savez ce qui s'est passé? Arrivé à Kasulo, on a amené une nouvelle balance de Metorex pour donner des résultats qui sont réels. Mais avant, quand elle est arrivée, elle se rappellera bien, les creusers ont crié que ça c'était du nouveau, ça n'a jamais été le cas, même avant qu'elle n'arrive dans les sites de Kasulo. Mais juste quand elle est partie, il y a eu un tollé parce qu'on a remis, elle sort du site, directement on remplace l'ancien Metorex et la balance triquée. Imaginez-vous.
Donc la tricherie à grande échelle.
L'autorité ministérielle du pouvoir central, il arrive, il est dupé par les services techniques de l'État, les services de l'État qui sont en connivence avec les Chinois. Elle est dupée, elle part, elle pense avoir résolu le problème, mais il y a eu un tollé derrière elle. Parce que les creusés se sont encore révoltés. Et elle est partie. C'était une visite. On dit, mais est-ce une visite pour résoudre la question ou une visite politique? Nous devons inviter les autorités à éviter les tape-l'œil, c'est-à-dire quelque chose de criard seulement, mais qui ne résout pas, des tapages.
Alors, le saupoudrage, mais voyez, en réalité, il n'y a rien.
C'est ça le problème.
D'accord.
Donc, je vais terminer, M. Jody.
Oui.
Voilà, c'est ce qui se passe. Et quand on arrive, on vous dit, là-bas, vous avez estimé 150 chez SAEMAP, mais chez les Chinois, on vous dit 90. Les 60 kilos partent. Mais on vous dit, mais est-ce que SAEMAP achète? Ils n'achètent pas. Il n'y a que les Chinois qui ont le monopole. Les Chinois. C'est pourquoi vous avez vu dans la chaîne, on vous dit, les Congolais, quand ils arrivent à l'entité de traitement, ils ne peuvent pas y accéder. Sur votre sol congolais,
vous ne pouvez
mais
pas
c'est
accéder.
Le Chinois qui a le pouvoir. Bien que c'est ton produit, mais tu arrives, il faut chercher le parrainage d'un Chinois qui
est venu
sans rien, qui n'avait pas d'argent parce que l'entité appartient à un Chinois. Il favorise son frère chinois pauvre qui est venu de chez lui. Comment il doit s'enrichir? Il arrive, il dit, bon, voilà, c'est ton. Et le Congolais attend, il dit, mais ça fait autant de ténèbres, ça, c'est autant de kilos. Tu prends, là, ton argent est là, donne-moi ma part, commission. C'est quel pays ça? Et les autorités, ils nous disent que nous protégeons le peuple et nous travaillons pour l'intérêt du développement des populations. C'est faux ça.
Donc nous voulons que les gens aient une vraie volonté, oui. que les gens aident les Congolais, qu'ils travaillent. C'est notre souci qu'on travaille pour l'intérêt du développement
communautaire. Monsieur Jean-Paul Kapongo, vous avez suivi toutes ces préoccupations. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs et aux intervenants? Monsieur Jean-Paul Kapongo? Allô? Il n'est plus là. On va demander peut-être à Tati Mapoukou de le rappeler. Monsieur Kapongo est les directeurs généraux de SAIMAPE, le service d'assistance et d'encadrement et de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Donc, la solution, Maître Donat, donc vous avez dit, à part demander à ses propriétaires un individu qui vous détient 100 carrés miniers. C'est incroyable. Alors, là, quel est le service qui doit s'imposer? C'est le ministère des Mines qui s'impose et oui, demande à ces gens de céder une partie.
Le problème est que le Lualaba semble être un pays à part en RDC. Parce que nous avons pris, Madame la Ministre, prendre des décisions par rapport à ce qui concerne notamment à l'Est et remettre un peu de l'ordre. Mais au Lualaba, on ne sent pas l'autorité de l'État dans les secteurs minier artisanal. Tout simplement parce que effectivement les tireurs de ficelles sont ici à Kinshasa et nous croyons que les autorités de l'État sont tellement impliquées dans ce qui se passe au Lualaba.
Ça devient trop complexe.
C'est très complexe. Mais nous allons continuer à dénoncer parce que les coopératives demandent qu'on leur laisse, par exemple, la possibilité de vendre aux entités de traitement. Ce que Shadrach est en train de dénoncer, c'est quoi? Quand une coopérative veut vendre ses minéraux à une entité de traitement, parce qu'il y en a, comme les entités de traitement sont tenues par les Chinois, et vous passez par un intermédiaire qui est un Chinois, en fait un commissionnaire, votre propre produit, et qui perçoit à la fin un pourcentage. Du coup, la classe moyenne n'est plus composée, n'est plus la classe moyenne congolaise, c'est une classe moyenne composée des expatriés qui viennent, comme il a dit, pauvres, mais dans peu de temps qui deviennent riches. Une autre solution pour nous, c'est de maîtriser le marché. On a créé un centre de négoce à Kolwezi, c'est un projet, vous en avez entendu parler. Il est fini, mais il n'est pas opérationnel. Bon, nous craignons les discours de Madame le vice-gouverneur qui prétend vouloir créer des succursales à ces marchés, parce que on ne va pas créer des marchés là où il n'y a pas des zones d'exploitation artisanale. Si on les fait, ça signifie on favorise la fraude, on favorise la tricherie.
Mais est-ce qu'on sent l'implication des autorités provinciales pour résoudre ce problème?
Sur le plan des discours, oui, mais dans la pratique, ces autorités sont très impliquées. Je vous ai dit, directement ou indirectement, chacun a une coopérative et leurs coopératives sont dans des zones plus ou moins rentables. Et les vrais artisanaux, ceux qui n'ont pas de parapluie politique, ceux qui ne sont pas proches des autorités, se retrouvent sans zone d'exploitation.
Maître Donat, alors la situation est tellement complexe. Non, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ce qu'il faut faire, c'est déjà le travail que nous faisons grâce à votre radio.
Le plaidoyer.
Nous sommes en train de faire des plaidoyers, nous sommes en train de dénoncer. Au-delà de dénoncer, nous avons engagé les coopératives à discuter de ces problèmes. Et donc, c'est important de créer un débat autour de ce genre de questions. Je vous ai dit qu'il y a un élan qui avait commencé même à travers la société civile dans le cadre de l'IDAC. Nous en avons parlé entre parties prenantes. Il y a des entreprises qui veulent bien céder une partie de leurs concessions aux artisanaux. Mais les couacs, c'est que les conflits d'intérêts entre acteurs politiques fait que y a des gens qui ont des réserves. Donc si nous commençons par réduire et retirer les personnalités politiques dans l'artisanat minier, nous commençons à retirer les officiers militaires et policiers qui sont dans les secteurs miniers, ça pourrait permettre à ce qu'on ait des vrais acteurs, donc des acteurs impliqués qui travaillent pour le bien-être des Congolais, qui travaillent pour la formalisation du secteur, et ça nous permet tant soit peu de résoudre autant de problèmes contre notre...
D'accord. Donc, on va accueillir Maître Chims Mulungulungu. Vous êtes enseignant des droits et vous êtes même l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les droits miniers ». Maître Chims, bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody.
Alors, vous avez suivi tout ce qui se passe dans les secteurs de l'exploitation artisanale des mines au Lualaba et dans d'autres provinces. C'est un désordre indescriptible. Il y a un jeu d'intérêt incroyable. D'après vous, quelles sont les solutions pour permettre aux artisanaux de trouver aussi, d'avoir des zones d'exploitation artisanale?
Oui, merci, monsieur Jeudi, pour la question et pour l'émission. Vous savez qu'aujourd'hui, les secteurs des mines intéressent d'une personne. Et particulièrement en ce qui concerne l'exploitation artisanale, les populations locales.
ou les communautés locales, comme on aime bien les appeler. Il faut dire ici qu'il y a un problème d'hommes, je ne le cesse de le dire. Le problème ici, c'est que la loi a prévu des mesures qui doivent être appliquées. Mais il faudrait que l'autorité ou les autorités qui sont appelées à appliquer cette loi l'appliquent correctement. Et là encore, il y a un petit souci parce que ceux qui doivent appliquer la loi, tous les organes, tous les services qui doivent intervenir, doivent déjà comprendre cette loi. Et toute cette difficulté d'incompréhension de la loi fait que il se pose un problème d'application correcte de la loi. Je dois d'abord rectifier ce que le DG du CEMAP venait de dire tout à l'heure. Lorsqu'il évoquait l'article 30, il a parlé de l'alinéa E. Non, il s'agit plutôt de littéra E. Alors, ces littéra E ne donnent pas d'office droit au CEMAP qui est habilité à requérir l'institution d'une zone d'exploitation le droit de s'imposer lorsque les exploitants miniers se trouvent dans le périmètre d'un titulaire de droit minier qui est détenteur d'un titre minier délivré en bonne et due forme. Ce que dit ces littéra E, c'est que il est vrai, c'est parmi les exceptions que le législateur permet à ce que une zone d'exploitation puisse empiéter sur un droit minier. Mais là encore, il faudrait que le titulaire donne son autorisation expresse pour que cette partie soit cédée. Donc, il n'est pas ici question de se réveiller un matin. On dit à l'opérateur minier, mais voilà, il y a une partie ici qui intéresse les exploitants artisanaux et que de droit comme ça, parce que la loi nous dit de vous mettre de côté pour laisser cet espace aux exploitants artisanaux. Non.
Oui.
Il faudrait négocier avec le titulaire, puisqu'il est dans son droit.
S'il refuse, alors, bien, bon, rien ne va arriver.
Nous voilà pourquoi nous parlons d'un plaidoyer.
En principe, il y a blocage. Mais il faut aller plus loin. Parce que lorsque vous prenez dans son rôle de contrôle des activités minières, dès qu'il ressort du chapitre 3 relatif aux garanties et au contrôle de l'État, précisément au titre 10 relatif à la réglementation de change et de garantie de l'État, l'État peut recourir à l'article 275 en expropriant cet espace-là à l'opérateur minier qui ne veut pas négocier, qui ne veut pas coopérer.
Voilà,
parce qu'on ne doit pas abandonner ses exploitants à leur triste sort.
Maître Chims,
par exemple,
merci beaucoup. Oui. Maître Chims Mulungulungu, on n'a plus beaucoup de temps. Merci beaucoup. On aura l'occasion de vous rappeler lors d'une prochaine émission parce qu'on va revenir sur ça, sur cette question. On ne pourra pas tout épuiser aujourd'hui. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes enseignant de droit et auteur du livre Droit minier. Merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. On vous retrouve prochainement. Alors, on va conclure
Je vous en prie.
Merci beaucoup. Bonne journée. On n'a plus beaucoup de temps. On va conclure cette émission avec vous, Monsieur Chadrack. Qu'est-ce qu'on retient par rapport à ce que Maître Chims vient de dire, l'État peut exproprier.
Les pistes sont là.
Voilà, les pistes sont là.
C'est une piste de droit.
Est-ce que ça a déjà eu lieu? On a déjà assisté à une expropriation.
Jusque-là, non. Parce qu'il n'y a pas de volonté politique, en fait.
Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette volonté? Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire?
Ce qu'il faut faire, nous disons, l'État doit comprendre l'importance du secteur minier artisanal. Il doit comprendre le nombre de jeunes désœuvrés qui sont dans ce secteur. Il faut encadrer ces jeunes pour leur éviter la délinquance. Et si on a cette volonté de les encadrer, il faut leur faciliter l'espace, la tâche, leur faciliter, leur donner l'espace d'exploitation. Et lorsque c'est là, vous allez voir que les jeunes vont se retrouver et l'économie locale sera florissante. Donc nous interpellons l'engagement. Maître, le professeur venait de le dire, l'enseignant venait de dire qu'il faut qu'on applique les lois de la République dans toutes leurs dispositions.
D'accord. Merci beaucoup, Maître Chadrack Moukad Mouai End Now, président du cadre de concertation de la société civile de l'Olaba et porte-parole de la délégation de la société civile de l'Olaba dans sa diversité. Et nous disons également merci à Maître Donat Kambola Lengue, coordonnateur de l'initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet.
Merci.
À la prochaine.
Merci à la Radio Okapi.